Je sais que c'est exactement l'accompagnement de... Bonjour à tous, Jean-René l'Admiral au micro pour mon émission Paroles et Pensées. Et aujourd'hui, je reçois Daniel Abrecorne. Bonjour Daniel.
Bonjour Jean-René.
Et voilà, je donne la parole parce que là, nous sommes deux hommes et pour les auditeurs, deux voix masculines, il faut essayer de les distinguer l'une de l'autre. C'est plus facile quand il y a un monsieur et une dame.
Voilà. C'est vrai, et à tout point de vue.
c'est mieux à tout point de vue. Et donc, l'émission d'aujourd'hui, que j'enregistre aujourd'hui, puisque c'est une émission enregistrée, que nous l'enregistrons aujourd'hui le 27 décembre 2023, je ne sais pas quand je la passerai.
27 novembre.
27 novembre, merci, oui. 2023. Je ne sais pas quand je la passerai. Le thème de l'émission, c'est « Entretien avec Daniel Abrecorne ». Mon idée est que les auditeurs de Radio Courtoisie entendent, écoutent des émissions qui sont animées par des patrons d'émissions. Et on finit par connaître les noms des patrons d'émissions, on finit par les apprécier plus ou moins, par reconnaître leur voix, leur nom. Mais j'ai pensé que les auditeurs seraient intéressés à savoir qui c'est ces patrons d'émission qu'ils entendent assez fréquemment. Les patrons d'émission, quand ils ont un invité, quand ils invitent une personnalité, en général, nous, les patrons d'émission, nous présentons la personne que nous avons invitée. En revanche, nous restons en quelque sorte à l'arrière du micro. Et j'ai trouvé souhaitable que les auditeurs sachent qui sont les patrons d'émission, qui est en l'occurrence Daniel Abrecorne, qui est le patron de l'émission intitulée « Ontologie de la création ». Et qui passe le jeudi de 10h à 11h, dans le même créneau horaire que la mienne, qui est le lundi de 10 à 11, et c'est en semaine C, donc nous passons la même semaine en principe. Alors l'idée, c'est de savoir qui est la personne de Daniel Abrecorne. Moi, par exemple, au départ, je suis universitaire, j'ai enseigné la philosophie et puis j'ai beaucoup travaillé sur le problème des sciences du langage. J'ai même créé une discipline, la traductologie, c'est-à-dire la science, la discipline qui prend en charge tous les aspects, le problème que pose la traduction. Daniel Abrecorne, lui, a un profil évidemment différent. C'est un homme de lettres, je dirais un homme de lettres aux différents sens du mot. C'est un auteur qui a beaucoup publié, mais qui est en même temps un éditeur et qui, dans ses émissions, accorde une place importante à la littérature, mais une place importante, mais non exclusive. De ce point de vue-là, nous avons un point commun, Daniel Abrecorne et moi, c'est que nos émissions respectives, la sienne « Ontologie de la création » et la mienne « Paroles et pensées », est assez éclectique et ouverte. C'est-à-dire que nous ne nous enfermons pas, nous ne sommes pas enfermés dans une thématique. À la différence, par exemple, du Libre Journal des historiens, où on traite de problèmes historiques. Il est vrai que l'histoire, c'est assez vaste. Mais il peut y avoir d'autres émissions qui sont centrées sur une problématique. Ça n'est pas notre cas. Nos émissions font partie des différentes émissions qui sont ouvertes, éclectiques. Avec l'avantage qu'il y a une grande diversité, l'inconvénient, c'est qu'en quelque sorte, les auditeurs ne savent pas de quoi nous allons parler la prochaine fois. Et moi, à chaque fois que j'ai annoncé une émission, il est entre-temps intervenu des facteurs nouveaux qui font que je m'interdis maintenant d'annoncer ma prochaine émission, bien que ma prochaine émission passera le 25 décembre et sera consacrée au cinéma. Mais je prends pour la deuxième fois le risque d'annoncer l'émission en espérant qu'il n'y aura pas entre-temps de traverse qui invalide mon annonce. Daniel Abrocorn, alors quelle sera votre prochaine, sur quoi portera votre prochaine émission?
Oh, ce sera tout simplement, là, on sera le 21 donc, et on approchera de Noël, donc ce sera une émission consacrée aux musiques de Noël. Une émission historique, et j'ai invité pour ça une musicologue en fait, et qui est elle-même pianiste et chanteuse, donc voilà. Elle s'appelle Nicéphore, Sylvie Nicéphore. Voilà.
Ah, c'est bien, ça, voilà un nom qui consonne avec, qui consonne avec Noël. Et alors, pour reprendre la différence entre Daniel Abrocorn et moi, c'est pas l'émission est consacrée à Daniel Abrocorn, puisque cette émission fait partie de la série que j'ai ouverte où j'invite les patrons d'émission pour qu'on les connaisse. Mais souvent, quand j'invite quelqu'un comme patron d'émission, je suis amené à parler de moi par contraste, c'est-à-dire lui, c'est lui et moi, c'est moi. Mmh. Et par exemple, un des jeux de mots, je reprends un jeu de mots de Daniel Abrocorn lui-même, tous les deux, ce que nous faisons consiste à raisonner. Moi, c'est de raisonner, étant formation philosophique, c'est essentiellement de raisonner avec la raison, R-A-I-S-O-2-N-E-R, alors que lui, ce serait de raisonner, R-A-I-S-O-2-N-E-R, S-O-2-N-E-R. Non pas au sens de raisonner comme un tambour, mais raisonner, raisonner comme un vrai instrument de musique et comme un poète qui résonne au bruit du monde.
Oui. Et ce qu'on appelait au rythme, c'est-à-dire à la rime aussi.
Voilà. Et donc ça poserait un peu une différence. Mais en même temps, cela s'atteste d'abord dans les émissions proprement littéraires qu'organise Daniel Abrocorn, mais aussi, par exemple, dans le fait que toutes ces émissions commencent par un passage, une introduction où il fait place à un certain nombre de poètes. Il a remonté l'histoire de la poésie à partir du Moyen-Âge et continue dans le cadre de ce qui doit être en principe son anthologie de la littérature qui va être un monument extraordinaire. Donc peut-être vous pouvez nous dire quelques mots, Daniel.
Oui, il s'agit... Alors, j'ai abandonné le terme d'anthologie parce qu'en fait... Je préfère ma poésie française, c'est ainsi que s'intitulera l'ouvrage, qui est très gros, qui fait actuellement 700 pages. Et donc, c'est des origines à nos jours, la poésie française, mais la poésie au sens large. Vous avez parlé de littérature, pour moi, la poésie étant la meilleure des littératures, tout simplement, hein, et la plus dense et la plus riche. Ce n'est pas du tout uniquement des vers rimés, parce qu'il y a des vers rimés, il y a des poèmes très bien faits, très bien rimés, qui ont les rythmes, qui ont la métrique, mais qui ne sont pas de la poésie. bon, je parle des chansonnettes, par exemple, ou des trucs de Boy Scout, qui peuvent être très amusants, ou des chansons qui peuvent être très, très agréables à écouter, mais qui ne sont pas pour autant de la profonde poésie. Voilà. J'ai essayé d'insister sur la profondeur. Alors, c'est des origines à nos jours, et actuellement, je lis toujours un poème ou un texte poétique en début d'émission, dans les 5 premières minutes, avec une musique correspondante à l'époque, d'ailleurs, et nous sommes actuellement au 15e siècle. Voilà.
Alors, c'est magnifique parce que la poésie a une place à Radio Courtoisie.
C'est vrai.
Elle est maintenue.
Heureusement.
Il y a donc une émission consacrée à la poésie qui est régulière. Et il est bon aussi que dans une autre émission, la poésie ne soit pas absente, tout en laissant la place à d'autres choses. Quant au rapport entre poésie et littérature, la formule, la métaphore que j'utilise, c'est de dire, moi, ma définition de la poésie, c'est le point d'incandescence de la littérature.
Oui, c'est très joli. Il y a d'autres définitions. Par exemple, on peut dire que la littérature, c'est un avion qui roule, et la poésie commence au moment où il décolle, par exemple.
Bon, voilà.
Bon, il y a d'autres formules, par exemple Ezra Pound, le grand poète américain, qui est revenu d'Italie, vous savez, dans une cage de fer, parce qu'il a été un supporter de Mussolini. L'extrême droite. Voilà. L'extrême droite, voilà. Mais ce grand théoricien de la poésie et poète lui-même disait que la poésie se caractérise essentiellement par sa densité. Et il avait trouvé un mot allemand, je crois, enfin là vous êtes beaucoup plus allemand, j'allais dire allemand, germaniste que moi. C'est-à-dire qu'il avait trouvé ce mot Dichtung.
Voilà.
Dichtung, qui veut dire la densité et en même temps la poésie, je
voilà,
crois.
Dichtung, hein, voilà, Dichtung, c'est la poésie, mais paradoxalement, et c'est, on est tout à fait dans le problème, ça peut prendre aussi un sens large où figure aussi la littérature. C'est et ça. Par exemple, ouais, un exercice qui se produit souvent, ou en tout cas se produit en Allemagne, c'est on demandait à un auteur de recevoir et de lire des passages de ses romans, de ses œuvres. Et on appelle ça Dichterlesung, lecture
ça.
Par le poète, par l'écrivain.
Et
effectivement, Dicht, en allemand, l'adjectif Dicht, veut dire dense.
Voilà.
Alors, effectivement, Dichtung, littéralement, ce serait densification.
Voilà.
En ce sens-là, Ezra Pound entend l'étymologie immédiate du mot.
Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'allemand, comme vous venez de le dire, cher Daniel Abrocorn. Et alors, j'ai fait ici, j'ai fait plusieurs émissions sur la langue allemande, sur Radio Courtoisie, dans le cadre d'une de mes séries, puisque mon émission Parole et Pensée est répartie en plusieurs séries. Une des séries, c'est Langue du monde.
Ouais.
Et j'ai fait déjà deux portraits de l'allemand. Et alors, une des différences entre l'allemand et le français, c'est que les étymologies, l'origine des mots en français, remonte à un passé plus lointain que l'on connaît, à partir du latin ou du grec, et qui n'est plus apparent. Il faut être savant, être cultivé ou consulter les dictionnaires, mais en même temps, quand on connaît l'étymologie des mots français, ça n'est pas toujours éclairant. Par exemple, concevoir et comprendre, ça veut dire tous les deux prendre ensemble.
Oui.
Alors, on peut dire que comprendre, c'est prendre ensemble, si on veut.
Oui.
Enfin, ça n'est pas très clair. Ça ne peut solliciter les choses. Alors qu'en allemand, comme les mots ont été créés plus récemment, il n'y a pas l'arrière-pays
l'ambiguïté
du latin.
Ouais, d'accord.
Il y a donc une étymologie que j'appelle immédiate. Et d'ailleurs, certains philosophes jouent beaucoup là-dessus. Et ce n'est pas artificiel de réactiver l'étymologie de l'allemand parce qu'on l'entend encore dans l'allemand moderne,
d'accord,
quand on prête attention. Alors qu'en français, comme on sait, il y a des gens qui font tout un plat de l'étymologie. Et alors effectivement, si on va chercher,
c'est toujours intéressant.
On peut toujours, faire des associations. Un jour, peut-être, je ferai une émission sur et contre l'étymologie, parce que ce serait l'idée qu'on enferme le langage dans son passé et qu'on enferme la pensée dans ce que le langage du passé nous dit. Or, penser, créer, faire de la philosophie ou de la poésie, et moi j'associe beaucoup les choses. Une des différences entre Daniel Abrocorn et moi, c'est que lui, sa référence principale, c'est la littérature et spécifiquement la poésie, alors que moi, c'est plus la philosophie et les sciences du langage. Mais je pense que les deux choses convergent beaucoup plus qu'on croirait. On peut les opposer, mais je dirais que le point commun entre la poésie et la philosophie, c'est d'essayer de dire les moments forts d'une expérience humaine inédite. Les moments forts de l'expérience humaine, grâce aux moyens du langage. Et les bons philosophes sont souvent de bons écrivains, en tout cas pour la tradition française.
Et parfois des poètes, d'ailleurs.
Justement, parfois des poètes. Si c'est des grands écrivains, c'est aussi des poètes. Mais si on cite les grands philosophes français, on a des écrivains. C'est Rousseau, c'est Bergson, prix Nobel de littérature, c'est Montaigne, bien sûr, c'est Pascal, Descartes, le discours de la méthode.
Oui,
le titre n'est pas accrocheur, mais quand vous lisez, chers auditeurs, quand vous lisez la première partie du discours de la méthode, c'est magnifique, c'est magnifique. Mmh. Et alors,
c'est pas pour autant de la poésie d'ailleurs. Mais enfin,
c'est voilà, alors c'est là où moi j'ai envie d'être, je suis pour la continuité. Ouais. Je sais, j'ai un débat avec mon ami et collègue Jean-Yves Masson, professeur de littérature comparée à la Sorbonne, et qui, alors lui, épouse la thèse de Valérie, à savoir que la poésie, c'est tout autre chose que la littérature. Ouais. La poésie, c'est un en soi. Mmh. Alors moi, je suis continuiste. Je dis que la poésie, c'est le point d'inconnaissance, le sommet de la littérature.
Voilà.
Mais que, alors il y a une métaphore de Heidegger que j'aime bien, il l'emploie pour l'histoire de la philosophie. Il dit que les philosophes, c'est un petit peu comme des chaînes de montagne. Il y a des sommets, les grands philosophes, ils ne communiquent pas, c'est des sommets différents. Mais c'est des sommets, et du haut d'un sommet, on peut voir les autres sommets.
Ouais.
Et je trouve que c'est une belle image. Il l'emploie pour les différents philosophes, j'ai envie de dire, ça vaut pour la philosophie et la poésie et la littérature.
Sans doute,
Goethe, c'est un... On envie les Allemands d'avoir Goethe.
Ouais.
Goethe, il a tout fait.
Oui, Goethe est en même temps un scientifique,
un poète, un écrivain, un romancier.
Peut-être un peu moins philosophe d'ailleurs, mais enfin bon.
Peut-être un peu moins philosophe, mais,
poète, c'est
mais tellement penseur.
Ah oui,
alors, moi, je ne fais pas la différence entre philosophe et penseur.
Oui, oui. Hein, ben, ça, c'est les grandes pensées de cette époque. Vous aviez. Mais en Allemagne, je sais pas, Novalis, et des gens comme ça, Hölderlin.
Oui, Novalis est à la fois un grand poète et un penseur, un vrai penseur.
Hölderlin également. Mais alors.
Baudelaire aussi.
Oui, oui.
Baudelaire, Proust, c'est vraiment des penseurs.
Oui.
Même Céline. Le voyage au bout de la nuit.
Oui, c'est plus un penseur qu'un poète, sans aucun doute. Moi, Céline, poète, non, je ne suis pas d'accord.
Non, écrivain et penseur.
C'est un écrivain original, parce que c'est un, disons, Céline, moi je le définirais comme ça, c'est un jusqu'au boutiste du naturalisme. Mmh. Il ne faut pas oublier que c'était un grand disciple, un grand admirateur de Zola. On l'oublie trop. Hop de gauche, etc. Bon, vous savez qu'il a fait une conférence dithyrambique sur Zola en disant que c'était le plus grand écrivain, etc. Et finalement, si vous comprenez bien et si vous avez lu Céline, je pense que c'est du jusqu'au boutisme du naturalisme.
C'est de l'hyper-naturalisme.
Voilà, c'est de l'hyper-naturalisme. C'est une espèce de Zola qui délire, qui délire dans le même sens, exactement. Et ça, la plupart des gens qui lisent Céline, qui a une réputation d'homme de droite, etc., ce qui, à mon avis, est complètement erroné, sous prétexte qu'il était antisémite, il est considéré comme un homme de droite. Bon, ça ne veut rien dire, c'est complètement à côté de la plaque. Oui. C'était
Céline, que l'antisémitisme est à gauche, et il le redevient énormément.
Oui, effectivement. Ne parlons pas de l'actualité, mais... Céline, finalement, était surtout un hygiéniste, vous savez. Aujourd'hui, ce serait un grand défenseur des vaccins, de toute évidence. Attendez, Céline ne buvait pas d'alcool, ne fumait pas, se lavait les mains 4 fois avant de manger, etc. Ce qui n'a pas l'empêché, d'ailleurs, de finir dans ce pavillon de banlieue que je passais très souvent devant parce que j'habitais pas loin de Meudon. J'habitais Vanves, et en allant route des gardes à Versailles, je passais toujours devant chez Céline, il y avait les chiens, etc. Et vous connaissez, moi j'ai les photos de l'époque, il est très cradingue, c'est extraordinaire. Il a des ongles noirs, etc., on le voit. Et alors que c'était un hygiéniste, mais convaincu. Il faisait attention aux microbes, il recommandait de faire bouillir l'eau avant de laver la salade. Quoi. C'était à peu près ce niveau-là, comme aujourd'hui une Suédoise. Vous voyez Alors c'est un peu étrange, on comprend pas, on n'a pas compris, on a interprété Céline d'une drôle de façon, qui est fausse, à mon avis.
Comme souvent les gens de génie, il y a un problème psychologique. Et là, il est obsessionnel d'un côté, et le propre des obsessionnels, c'est de s'exciter sur la propreté, sur les rangements. Et alors, c'est comme si comme si on se vengeait. C'est, le gars, il range tout, mais il y a des piles de désordre à côté.
Ouais,
il est obsédé par la propreté. En même temps, il y a des endroits de sa vie qui sont, comme vous le dites, cradingues.
Puis se venger du désordre du monde aussi. Hein. Enfin, il y a un côté... À côté rattrapage, à côté... C'est un peu étrange, c'est un personnage très très étrange. Hein,
En tout cas, ce qui est vrai, c'est que, par exemple, le voyage au bout de la nuit, c'est vraiment hyper naturaliste. Il nous décrit de façon noire, mais quand même précise, la réalité, quitte alors à la prolonger par des éléments de délire qui l'éclairent paradoxalement, comme une caricature dévoile la personne que l'on caricature. Et c'est un hyper-naturalisme jusqu'à la caricature.
Ouais, ouais. Alors c'est marrant parce qu'on pourrait comparer avec Rousseau. Alors Rousseau nous disait, il y a le bon sauvage, etc. C'est-à-dire que pour Rousseau, l'homme est naturellement bon. Il est arrivé et la société l'a rendu dégueulasse, merdeux, un être épouvantable, etc. Bon, on peut dire que Céline, c'est pratiquement l'inverse. C'est-à-dire que... Enfin, c'est pas l'inverse. C'est l'homme est naturellement dégueulasse et la société l'a rendu encore plus dégueulasse. C'est un peu ça.
Voilà. Et...
Donc c'est une épreuve. Hein. La lecture de Céline est une épreuve.
En même temps, il y a une forme de bonté, paradoxalement.
Ah ben, je pense que le personnage était un type très très sympa, contrairement
c'était
à ce qu'on a.
C'était le docteur des pauvres.
Oui,
ici.
C'est ce qu'on dit aussi. Ah, oui. Mais c'était vrai. C'était un mec qui n'était pas. Enfin, on parlait d'antisémitisme. Il n'était pas du tout antisémitiste dans le sang et pour des raisons raciales ou des choses comme ça. Il a écrit des horreurs sur les Juifs. Mais Léon Blois aussi. Mais Léon Blois écrit Le salut par les Juifs après. Vous voyez, bon. Et Céline, je pense, n'a jamais dénoncé les Juifs ou fait des saloperies de ce genre-là. Jamais. C'est complètement faux. C'était un mec qui était honnête, en fait. Voilà, dans la vie.
Et qui avait une forme de bonté. On le voit dans Le voyage au bout de la nuit, c'est effectivement très noir. Mais on sent qu'il a pour les pauvres, pour les gens, les petites gens, dont il décrit les bassesses, les faiblesses, en même temps une certaine sympathie. C'est-à-dire, ma formule, c'est on n'est que ça, finalement.
Ouais, ouais.
Hein, qui sommes-nous pour les mépriser ?
Alors, en fait, sur la condition... pour en finir avec Céline, parce qu'on n'a fait pas une émission sur Céline.
Oui, on fait une émission sur Daniel Avrecord.
Voilà. Bon. Alors, je ne suis pas un célinien spécialiste, mais enfin, j'ai lu Céline, j'allais dire comme tout le monde, mais je pense que... Il y a ce jusqu'au boutisme, il y a la chose noire. Le problème avec Céline, c'est le manque de transcendance. Bon, excusez-moi, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que, et pour moi, qui ai vraiment travaillé énormément de poètes et d'écrivains depuis le très haut Moyen-Âge, le 11-12e siècle, jusqu'à maintenant le 15e siècle et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la génération d'Henri Michaud. Mon ouvrage sera composé comme ça. Mais les auteurs qui n'ont pas la transcendance, c'est-à-dire qui vont au-delà de ce monde, si vous voulez, dans une imagination, alors qu'elle peut être fantastique, elle peut être simplement de l'amour, de l'amour. La dimension de l'amour, eh bien, pour moi, amène à la religion, fatalement. Bon, mais moi, je l'avoue humblement, je suis croyant, catholique, mais il manque une dimension. Alors, vous parliez de Valéry, par exemple. On va changer un peu de registre. Je pense que Valéry, c'est un peu la même chose. Vous voyez, c'est-à-dire que Valéry, c'est un intellectuel extraordinaire. Ses aphorismes, ses petites phrases... par dizaines, que j'ai citées par dizaines, vraiment, qui sont extraordinaires. C'est d'une intelligence extraordinaire. Hein. Mais ce n'est pas un grand poète, Valéry. Ouais. Contrairement à énormément de gens qui nous prétendent que Valéry, c'est le béaba de la poésie, c'est fantastique, c'est machin. Non. Et Valéry, c'est un succès de son époque et de son vivant monumental. Il traduit dans 27 langues. Il a été, enfin, il est au fronton du palais de Chaillot. Hein. Ses phrases, c'est extraordinaire, c'est un aboutissement extraordinaire. Il lui a manqué que le prix Nobel, je crois. Mmh. Mais Valéry, c'est très intelligent, c'est passionnant. Il y a quelques vers qui sont diffusés, qui sont très chouettes. Mais la lecture d'un poème entier de Valéry, ça pour moi, ça s'arrête là. C'est du niveau, c'est des belles aubes du 13e, 14e siècle. C'est comparable, la femme qui est devant la croisée, file, etc. Bon, c'est très joli, très bien fait. C'est d'une technicité et d'une régularité rythmique et en rime. Impeccable, il n'y a rien à dire. Mais on se demande où est la transcendance, où est-ce qu'il va. Et il ne va pas, parce que Valéry, il est bloqué. Il y a un côté... Alors c'est ça peut-être qui fait la différence entre le penseur et le poète.
C'est ce que j'allais vous dire, Daniel, dans votre sens, c'est que c'est là les limites de la philosophie, peut-être pas du penseur. Le penseur avoir, mais souvent par définition, la philosophie qui s'organise en discours conceptuel, d'une certaine façon,
la philosophie des systèmes en plus.
Voilà, sans aller jusque-là. Ouais. Alors, il est vrai qu'un Bergson ne ferme pas la porte à une forme de transcendance,
C'est vrai.
Mais tendanciellement. La philosophie étant une construction conceptuelle d'analyse du monde et de l'expérience humaine a tendance effectivement à plafonner avant la transcendance. Certains penseurs transgressent ça, évidemment, et même un philosophe comme Bergson. Mmh. Descartes ouvre vers la transcendance à la fin du discours de la méthode, et je remerciais Dieu de m'avoir fait naître dans je cite de mémoire, la religion où je suis né plutôt que etc. Alors on pourrait penser que c'est de l'opportunisme. En fait, Descartes était un croyant tranquille. C'était pas un mystique, c'était pas Pascal, bien sûr.
Non, c'était pas Léon Blois non plus.
Voilà, mais bon, il croyait en Dieu, c'est un catholique, et on en fait pas des salades. Puisqu'on est rationnel, on fait de la philosophie par ailleurs. Et effectivement, si on reprenait une espèce de typologie improvisée qu'ils ont fait, une autre divergence d'avec vous, si peut-être, Daniel, donc, vous êtes d'accord pour un certain continuisme où la poésie serait une forme particulièrement élevée de la littérature, avec un regard vers la transcendance. En revanche, vous écartez la chanson. Moi, j'ai tendance à voir dans la chanson...
Attention, je vais vous répondre.
Oui, ben, je sais qu'il y a... je sais que j'ai une divergence avec mon collègue et ami Jean-Yves Masson, que j'ai eu une discussion avec un gars que j'ai invité plusieurs fois, qui est professeur de littérature à Valenciennes, et qui s'appelle, et j'oublie ses noms, j'ai la maladie d'Eisenhower, ça me reviendra tout à l'heure. Et alors moi, ma thèse, c'est que la chanson française, pas toutes, mais la plupart des belles chansons françaises réussies, c'est à la fois un poème, un apologue philosophique, une mélodie, une interprétation. Quand reviendras-tu, au moins le sais-tu, par exemple de Barbara ou bien certaines chansons de Léo Ferré ou d'autres de Brassens. D'ailleurs, certains de ces chansonniers de qualité comme Ferré ou Brassens ont repris des poètes.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est parfois leur meilleure chanson. En ce qui concerne Brassens, par exemple. Je pense que sa plus belle mélodie est La Marine. Et La Marine, c'est un poème de... Ou c'est Francis Jammes, ou alors C'est peut-être Paul Fort, j'en sais rien, je ne me souviens plus. Mais c'est un poème qu'il n'a pas écrit. Hein, mais c'est une merveilleuse mélodie
Ben, y
de
a,
Marine.
je vous salue Marie, qui est aussi.
Oui.
Hein, il a fait un
Ça,
poème.
c'est un poème de Paul Fort, je crois. Hein,
Je, non, je ne
non?
crois pas. Et je sais plus de qui. Non, je ne crois pas de Paul Fort. Et de Paul Fort, il a repris Le Petit Cheval,
Oui, le petit cheval sous
qui est
un. Ouais.
une
Oui.
chanson magnifique,
Oui, Paul Fort.
magnifique.
Paul Fort, un
Et.
grand ami de ma grand-mère.
Voilà. Et alors, effectivement, ça fait la transition,
Oui,
puisque.
alors je voulais vous répondre sur la chanson. Je parlerai plutôt de la chansonnette que de la chanson. Bon, d'une part, j'ai parlé d'une chanson de Boy Scout, j'ai rien contre les Boy Scouts, bien sûr. Mais enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous savez, au Moyen Âge, la plupart des poèmes étaient chantés, avaient une mélodie. Malheureusement, on l'a souvent perdue, mais la plupart, les trouvères, comme les troubadours avant eux, allaient chanter en public leurs chansons, qu'ils soient d'ailleurs des grands seigneurs qui faisaient ça dans leurs cours, ou qu'ils soient des gens de l'extérieur qui venaient dans des cours et qui se baladaient, ou qui étaient payés et hébergé par un grand seigneur ou un grand bourgeois pour distraire la maison, quoi. Hein. Ils sont parfois devenus des ministres et des conseillers, d'ailleurs. Ils ont accompagné les grands seigneurs aux croisades, etc. Bon. Mais, bien entendu, c'était la chanson. La poésie était chantée. Enfin, et non seulement la poésie, mais les grands romans... Qui étaient rimés, hein, en vers rimés, les plus grands romans, Tristan Iseult, des choses comme ça. On chantait beaucoup. Mais je parlais évidemment de la chanson contemporaine, où, dans laquelle vous avouerez qu'il y a à boire et à manger, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, non.
On ne peut pas dire que Céline Dion soit un grand poète, on ne peut pas dire
Il y a
que.
de très belles chansons que lui a
Non, mais il y a
faites.
des jolies, moi je dirais
Mais
des jolies chansons. Voilà, oui.
Jean-Jacques Goldman lui a fait de belles chansons.
Oui, non, mais de là, des grands poèmes, c'est autre chose. Enfin, moi, j'aime beaucoup Brassens, j'aime beaucoup Léo Ferré. Bon, et encore que Léo Ferré, je pense que c'est les poèmes de Rudebeuf qui sont les mieux. Bon, mais quand tu t'en vas, si tu t'en vas, etc. Bon, c'est très joli, c'est très beau, mais c'est pas. Vous prenez le Belge là, comme Jacques Brel. Bon, Jacques Brel, excusez-moi, mais on ne peut pas parler de grande poésie, quoi. C'est un bon. C'est un ex.
Quand les fils de novembre nous reviennent en mai, et Frida la blonde redevient Margot. Et
Oui,
moi,
non, mais c'est pas mal, mais c'est pas des grands poèmes
Non,
qu'on
non,
peut
mais
lire.
j'ai pas dit
Par
c'est
exemple,
beau.
quand les marins invitent avec leurs mains qui sentent la frite, bon, on ne peut pas dire que c'est de la grande poésie, c'est de la très bonne chanson. Et il était surtout un très grand interprète. D'ailleurs, il a fait une carrière d'acteur extraordinaire. C'était une bête de scène. Moi, je l'ai vu sur scène, à Bobino, par exemple, et à l'Olympia. C'était un mec. Qui démolissait, enfin, vous étiez pris, vraiment, ne me quitte pas, etc. Bon. Mais vous prenez ces textes, vous les lisez, ça vous tombe des mains, hein. Il faut pas exagérer, quoi.
Alors moi, ce que je dis, c'est que la chanson française, quand elle est bonne, c'est déjà de la poésie. C'est un poème qui n'a pas.
C'est de la proto-poésie.
Oui, alors moi, voilà. Donc moi, voilà, on cherche un accord
Oui, ben on va être diplomate, on va pas se taper dessus.
comme dans les partis de gauche, on va faire une
Voilà,
motion
exactement.
chèvre-chou.
Voilà.
Voilà. Donc
On va voter ensemble la motion,
moi,
à condition qu'elle soit censurée sur certaines
voilà.
chansons.
Parce que moi, je suis continuiste, donc chanson, littérature, poésie.
Oui.
Voilà, pour que
Non,
ça
mais
fasse.
la chanson, je n'ai rien contre la
Voilà.
chanson. J'en ai fait moi-même des chansons.
Oui.
Et voilà, avec un musicien qui s'appelle Jean-Pierre Masse, on a fait pas mal de chansons. J'en ai fait aussi avec, moins bonne expérience avec Jean-Michel Jarre, mais c'était encore autre chose.
Eh bien, nous allons faire place au Bobinard, au Bobino, pardon.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, donc le bobine.
Le bobina.
est passé.
Ouais.
Et donc, au-delà de cette petite discussion, l'important, c'est justement qu'un patron d'émission a une personnalité intellectuelle et une personnalité personnelle. C'est-à-dire oui. que.
Ma vie, vous voulez parler de ma vie
bah, éventuellement, ouais. Si vous voulez nous offrir quelques confidences, parce que ça n'est pas intéressant ouais. de savoir. Comment on en vient à faire une émission à Radio Courtoisie mmh. Bon, moi, je sais, à titre personnel, moi, Jean-René Ladmiral, c'est Henri de Lesquin qui me l'a proposé.
Mmh.
Et donc, j'ai,
moi hésité, aussi.
j'ai hésité un peu, puis
ouais.
j'ai accepté.
Ouais.
Et d'ailleurs, je reprends le créneau de Quentin Debré, qui faisait psychologie et littérature.
Oui, je me souvenais.
Et qui était. Alors, c'est un peu écrasant parce que son émission était formidable. Mmh. Et c'est toujours un peu pareil. Quand on a eu de grands anciens, on s'est dit mais qui suis-je
ouais.
Est-ce que je flotte pas un peu dans les vêtements? Un peu comme Pompidou quand il devient président de la République après De Gaulle, effectivement.
Ouais,
enfin,
ouais, c'est sûr. Mais on s'aperçoit qu'ils se débrouillent très bien. Et vous-même, vous êtes très bien débrouillés.
Nous sommes, Daniel, nous sommes très bien l'un et l'autre. Enfin, c'est ce qu'on essaye.
Ouais.
Et semble-t-il, beaucoup d'auditeurs ont ouais. l'indulgence, la gentillesse d'apprécier ce
de
que
nous écouter. Ouais.
Moi, je sais alors, que j'apprécie ce que vous faites, Daniel. J'écoute très souvent votre émission. Pas tout le temps, parce que je peux passer toute ma vie collée à mon poste de radio, évidemment.
Ouais.
Mais très souvent, je les écoute. La dernière faisait partie de la série que vous avez consacrée à dénoncer... le prétendu vaccin,
oui, oui,
les mensonges autour du vaccin,
oui.
autour des prétendues guérisons, et à cacher les effets secondaires
épouvantables et nombreux
ouais. et cachés dont ce vaccin est
responsable.
Est responsable.
Ouais.
Et par exemple,
ouais.
moi j'ai consacré une seule émission à cela, qui ça remonte à un an, qui s'intitulait virus et vaccins, entre guillemets et vaccins, mais ça ne s'entendait pas.
Ouais.
Virus et vaccins, pourquoi tant de mensonges
ouais, ouais. Hein, je me souviens. Et moi, j'en ai consacré 4 ou 5 oui, émissions oui. là-dessus, avec Alexandra Rianco, d'entre autres.
Voilà, enfin, oui. bon,
que j'ai eu deux fois, et même il y a longtemps, en 1921. En 2021, pardon. Oui, vous savez, on demandait à Mallarmé, c'était Verlaine qui l'interviewait, c'est assez intéressant.
Ah, c'est pas mal.
C'est pas mal. Et lui demandait, mais qui êtes-vous, Stéphane Mallarmé, maître Stéphane Mallarmé. Et il disait, vous savez, moi, rien, je suis complètement banal, ce truc. Mais parlez-moi des yoles, j'ai des canoës. Hein, alors ça m'intéresse beaucoup. Je suis fou des canoës. Un peu comme Dali disait, il était fou du Perrier. Mais il était fou des canoës. Il disait, bah, je passe mon temps à ramer sur la Seine, etc. Il avait effectivement, il louait une propriété près de la Seine, près de Fontainebleau. Là, et il avait plusieurs canoës qu'il avait achetés ou loués. Il a dit, j'ai dépensé une fortune là-dedans. Il n'avait que son salaire de prof. Hein,
c'était ouais, pas prof d'anglais.
Voilà, prof d'anglais. D'anglais. Et donc, voilà la vie de Mallarmé. Alors, moi, c'est un peu... Bon, j'ai fait quelques trucs. De...
Non, alors...
J'ai pas fait de canoë, mais j'ai fait du bateau à voile, beaucoup.
Ça, c'est très
la
bien
goélette, la goélette.
Mais Daniel Abrecorn, il est surtout donc, écrivain et éditeur.
Oui.
C'est pour ça, et ça, c'est important. Alors,
je ne suis plus éditeur. Enfin, sinon, peut-être dans le conseil plutôt, mais j'ai fondé ma boîte d'édition effectivement en 1978, les éditions Toth, et que j'ai fait vraiment tout seul, sans moyens. J'avais 3 ronds, j'ai mis ça là-dedans, je les ai perdus, mais j'ai tout de même fait plus de 20 bouquins, assez, et j'avais deux collections, une, ça s'appelait Patrimoine, où j'ai réédité surtout des gens du 19e siècle. J'ai réédité Huysmans, j'ai réédité Léon Blois, par 3 fois d'ailleurs. Ouais. J'ai réuni la correspondance entre Blois, Villiers, Lisle-Adam, Huysmans, tout ça aux éditions Toth. Et puis j'ai publié les fameuses interviews de Jules Huret. Alors Jules Huret qui a interviewé 64 écrivains en 1891, paru dans l'Écho de Paris. Et j'ai réédité ça, c'était extraordinaire. Ça a eu un succès énorme, c'est passé à Apostrophe. Et j'ai eu le succès de ma vie, hein, Apostrophe, parce qu'à l'époque, les gens n'imaginent pas aujourd'hui, ils regardent les petites émissions à la télé ou à la radio, mais Apostrophe, c'était la consécration totale. C'est-à-dire que vous...
Et c'était un événement culturel, voilà, médiatique.
Énorme. C'est-à-dire, vous passiez, voilà, vous passiez, vous vous souvenez très bien, vous passiez à Apostrophe, vous êtes sûr d'avoir des papiers dans toute la presse, dans tous les canards.
Et d'avoir une pile de livres.
Voilà, une pile de livres à la FNAC, et dans toutes les librairies, il y avait une table Apostrophe, toutes les semaines. La table Apostrophe où il y avait les 4-5 invités. Bon, et moi, je l'ai eu deux fois Apostrophe, deux fois pour des bouquins. Extraordinaire, parce que... Donc Pivot n'était pas un pourri vendu, hein. C'est un type qui a été chercher la petite maison d'édition totalement inconnue et sans fric, je témoigne, et il a fait des émissions remarquables. Alors j'ai vendu malheureusement 5-6 livres, 5-6 000 exemplaires, ce qui m'a permis de faire 2-3 livres derrière, mais ça ne m'a pas fait fortune. Si j'avais été diffusé par Interforum ou par un très grand, parce que j'avais ma propre diffusion, c'est incroyable. Et là, j'aurais cartonné, j'aurais vendu des dizaines de milliers de livres, et c'était la petite fortune, je pouvais prolonger. Mais là, je me suis après cassé la gueule.
Oui, mais c'est ça. Voilà. Alors, deux choses, hein, d'une part, sur le destin de l'édition. Les petites maisons d'édition arrivent à vivre, à vivoter, mais tôt ou tard...
Elles sont soit rachetées, soit elles disparaissent.
Voilà, rattrapées par la
trésorerie.
Par la trésorerie. Voilà. Et encore une fois, comme vous le dites, Daniel, ou rachetées, ou elles ferment. Ouais. Et peut-être revenir sur Apostrophe pour des auditeurs plus jeunes.
Ouais.
C'était une émission du vendredi. Et,
toutes les semaines.
Ouais, toutes les semaines. Et les gens en parlaient et l'attendaient. Exactement. Et le lendemain, c'est pas... Maintenant, on dit, est-ce que tu as vu le match, machin truc.
Ouais.
Mais les gens parlaient d'Apostrophe.
Voilà. Est-ce que tu as vu tel auteur qui parlait de son bouquin, etc.
Et même
Et gens... le lendemain, les gens se précipitaient chez leur libraire. Voilà. C'est impensable aujourd'hui.
Et même des gens, par exemple, qui n'étaient pas des lecteurs et qui n'allaient pas acheter forcément les livres, ils écoutaient cette émission.
Exactement.
Et quelque part, ils attrapaient quelque chose de la littérature.
Ouais.
De même que quand on assiste à un spectacle de danse, on ne danse pas soi-même.
Ouais.
Mais on a quelque chose de la danse, du travail
acquis
corporel en soi.
Ouais, bien sûr. Voilà.
Et Apostrophe était un grand moment culturel. Il y avait une chanson.
Absolument.
C'est une chanson de celui qui a fait les baisers. Pas bon.
Ouais.
Et il avait fait une émission sur l'émission de Bernard Pivot, qui était un peu ironique.
Ah ouais, d'accord.
Souvent ses chansons, c'était.
Alors ça marchait bien, quoi. C'était.
C'est un indice, c'est-à-dire qu'il y avait même. C'était un tel événement culturel, médiatique, national, que par exemple il y avait une chanson de ce chanteur dont décidément j'oublie.
Peu importe, il y avait une chanson consacrée.
D'un chanteur, mais d'un chanteur connu. Hein, c'est parce que j'ai la maladie d'Eisenhower. Pierre Perret.
Ah, Pierre Perret, d'accord. Okay. Il avait fait une chanson, je savais pas.
Et ça se terminait, et Bernard Pivot à la fin.
D'accord.
Alors c'était un peu une chanson amusante, évidemment. Alors j'insiste un peu là-dessus parce que il n'y a plus rien de semblable.
Non, non. D'abord, il y a 82 chaînes, évidemment, donc. Ça, c'est un peu... À l'époque, il y en avait quatre, vous voyez.
Oui, mais s'il y avait une vraie télévision française,
c'est vrai. Mais il n'y a pas de personnalité comme Pivot actuellement, ça, c'est clair.
Et lui, il travaillait énormément.
Oui, il bossait énormément. Toutes les semaines, il avait 4-5 invités. Hein. C'est un boulot énorme.
Ça veut dire qu'il en avait lu 30 avant.
Oui, oui, absolument.
Pas de la première à la dernière page. Il avait des gens qui rabattaient, bien sûr.
Oui.
Mais il faisait le boulot.
Oui, il parlait. Et il avait une présentation qui était remarquable. Quand il aimait un bouquin, ça se vendait énormément.
Ouais, hein, et il en parlait très naturellement, ouais, très naturellement, ouais. Comme ouais. C'était la conversation au coin du feu. Enfin, c'était pas du tout. Ouais. Et ça, c'est, on peut regretter ça parce que c'est un des grands moments de télévision.
Oui, ouais, absolument, qu'on n'a pas vu depuis. Il n'y a aucun équivalent.
Non, non, personne. Très clair. Classe. Il y a quelques ouais. émissions littéraires qui sont.
Alors moi, je me souviens l'impact formidable des ventes, tout simplement. J'habitais avant une chambre de bonne à l'époque. J'avais pas de diffuseur. Les kiosquiers envoyaient des coursiers pour chercher les bouquins. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce qu'on appelait des 13-12. Ouais. C'était 13 à la douzaine. Hein. On faisait des bouquins 13 à la douzaine. Ils en payaient 12. Voilà, ils en payaient 12 comme les œufs et on leur donnait 13. Eh bien, moi j'ai eu des dizaines de cyclistes, là, de motos, etc., qui venaient à la porte de ma chambre de bonne. Je facturais, machin, j'encaissais. C'est absolument incroyable, par dizaines. Et j'ai reçu, alors j'ai eu par exemple dans le Nouvel Observateur, qui était un grand magazine à l'époque. Aujourd'hui, il y avait l'Express, Le Point et le Nouvel Obs. Hein. Il n'y avait rien d'autre. C'était les grands magazines. Eh bien, j'ai eu 8 pages d'extraits de ce bouquin dans le magazine Nouvel Obs. Donc, le résultat, j'avais mis mon catalogue. J'ai demandé au mec, est-ce que je peux mettre mon catalogue? Et à la dernière page, il a mis mon catalogue. J'ai reçu comme courrier, je crois, 40 lettres par jour pendant un mois. Je sais pas, ma concierge était folle, vous voyez, parce que j'habitais la plus petite chambre de bonne de l'immeuble. Et je recevais une tonne de courriers. Bon, alors là, c'est à ce moment-là que vous vous prenez pour quelqu'un, vous voyez. Mais vous avez tort, parce que ça retombe comme le soufflet aussi vite. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, j'ai fait le deuxième salon du livre au Grand Palais. J'avais le plus petit stand, le plus minuscule. Il pleuvait d'ailleurs, parce que là, ils n'avaient pas encore refait la toiture du Grand Palais. Et il pleuvait dans mon stand, les pieds dans l'eau, c'était assez dangereux, il y avait des projos, des trucs. Et les bouquins, ça ne supporte pas la flotte. Mais tous les éditeurs sont passés me voir, tous, les plus grands. Votre ami, le Gallimard, tout le monde est passé en disant chapeau. Et j'avais fait, il m'avait invité à Antenne 2, au journal d'Antenne 2. J'étais le seul éditeur pour présenter le salon du livre. Ah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Oui,
alors, c'était quelqu'un, ils avaient eu l'idée de dire, on va inviter le plus petit éditeur. Et voilà, c'était incroyable. Mais à l'époque, Antenne 2, vous passez au journal, c'était des millions de gens qui vous regardaient. C'est incroyable. Le lendemain, dans la rue, les gens m'arrêtaient en me disant, je vous ai vu à la télé. C'est absolument... Bon, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Moi, je suis passé plein de fois à la télévision, personne ne vous reconnaît dans la rue, parce que les télévisions, il y en a 35.
Oui, je vous remercie en évoquant pour les auditeurs que le patron d'émission, qui est Daniel Abrocorn, est non seulement un écrivain, qui a publié des essais, des poèmes, mais qu'il a été un éditeur. En vous lançant sur ce sujet-là, Daniel Abrocorn, je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. Ouais. Vous n'avez pas tout dit. Et j'ai dans mon émission plusieurs séries. Comme j'indiquais, j'ai une série Langue du Monde, j'ai une série Trajectoire politique de... Et j'ai une série Petit journal d'édition. Ouais. Et j'ai invité plusieurs petits éditeurs. Et donc, je vous inviterai, Daniel Abrocorn, pour parler de l'édition, vos maisons d'édition et du travail d'éditeur. Ouais. Vous nous en avez dit quelque chose, mais plus tard, on pourra y consacrer
un
certain temps. Parce que l'édition est importante.
Bien sûr.
Souvent, moi je suis auteur comme vous, Daniel, et souvent mes collègues qui sont universitaires, auteurs, se plaignent des éditeurs, parce que les éditeurs font de l'argent sur leur dos, etc. Mais je leur dis, mais d'abord, s'ils ne font pas de l'argent, s'ils perdent de l'argent, ils ferment. Et s'ils ferment, tu n'as plus d'éditeur. Ouais. Ton manuscrit, tu te le mets où tu veux, mais il ne sera pas publié. Alors, il y a des auteurs, des éditeurs moins élégants que d'autres. Moi, je considère, j'ai eu la chance.
Plus ou moins honnête aussi, bien sûr.
C'est ça que je veux dire. Mais, élégant était une façon, un euphémisme.
Oui, c'était une façon élégante.
Voilà, élégante. Moi, j'ai eu la chance de commencer chez Gallimard et là, de terminer aux Belles Lettres. Mm. Donc là, c'est un petit peu, je suis privilégié par la chance, par la grâce, par la providence. Mais j'ai toujours eu considéré qu'ils étaient très corrects. Évidemment qu'avec mes livres, je ne faisais pas fortune.
Mmh. Et pourtant, eux non plus, d'ailleurs.
Et, oui, et certains ont bien vendu. Mon premier livre sur la traduction, on est à sa 10e édition en poche.
Ah bah là, c'est...
10 000 exemplaires multipliés par 10. Ouais. Non, j'ai vendu 100 000 exemplaires à peu près. Et ça continue. Parce que c'est un livre qui est fondateur de la discipline.
Voilà,
c'est des choses qu'on ne sait pas quand on est jeune. Ouais, on fait ce qu'on croit bien, et puis où ça tombe à l'eau, où on est découvert comme ayant fait quelque chose de formidable, mais qui nous dépasse, parce que ce qu'on écrit, vous me direz si vous pensez la même chose, ce qu'on écrit nous dépasse. On y met tout ce qu'on peut, on a travaillé, etc. Mais quelque chose comme l'inspiration dépasse ce qu'on voulait, ce qu'on pouvait, et on aurait tort d'en être fier. Parce que moi, je pense, j'ai toujours envie de citer une phrase formidable qui est pour moi l'alpha et l'oméga de ma philosophie, de Saint Paul, premier épître aux Corinthiens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que je suis, tout ce que j'ai. J'ai les yeux bleus, j'en suis très content. Je ne suis pas fier. Je serais une belle fille, bien fichue. Je serais content, je n'aurais pas lieu d'en être fier. Ça m'a été donné.
Voilà. Mais là, c'est la transcendance qui apparaît.
Voilà, c'est quelque chose comme...
On est d'accord.
Moi, j'ai la providence, c'est la transcendance qui accepte, et ça, c'est propre à la religion catholique, puisque l'islam... Et l'judaïsme, Dieu est bien haut, bien en haut. Chez nous, il s'incarne et il s'intéresse à la vie des hommes. Exactement. Il a même la bonté.
Il aime.
Il aime les hommes et il a même la bonté de passer par les saintes et par les saints.
Voilà.
Par la Vierge Marie. Ah, et moi, j'adore les saintes et les saints. Je suis né à Lisieux, Sainte Thérèse.
Ah, bah justement, parlons-en. Vous savez que je dédicace l'autre jour à côté d'une dame qui venait de faire une biographie de Sainte Thérèse de Lisieux. Mais elle avait fait aussi la biographie de Sissi, de trucs, de machin. Bon, bref. Et on commence à parler. Je lui dis, ah, Sainte Thérèse de Lisieux. Elle me dit, on ne dit pas Sainte Thérèse de Lisieux, on dit Thérèse. Ah, j'ai dit, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, je suis...
protestant.
Je défends... Non. Je suis anticlérical, elle me dit. Non, j'étais absolument sidéré.
C'est drôle, les gens disent.
Elle écrit une biographie de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle refuse le terme sainte. Et pour elle, c'est une femme. C'était une femme exemplaire, mais ce n'était pas une sainte.
Ah bah oui, non, ça, c'est la pathologie féministe.
C'est gravissime.
C'est la féminite.
C'est grave.
La féminite,
voilà.
Comme c'est une maladie.
Et elle avait fait aussi une biographie d'une chanteuse, la chanteuse canadienne là, dont on parlait tout à l'heure.
Céline Dion.
Voilà. Alors, on ne va pas la citer, hein. elle se reconnaîtra.
Par charité, on ne va pas la citer.
Voilà, par charité. On l'a simplement encadrée.
Sainte Thérèse de Lisieux, je pensais, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je pensais ça qu'elle ne dit pas Sainte Thérèse.
Mais non. Elle refuse complètement ça. Pour elle, c'est Thérèse. Bonjour Thérèse.
Mais bon, moi, j'admire. On a Sainte Jeanne d'Arc.
C'est fabuleux.
Quand même, on a deux saintes extraordinaires, toutes les autres. Sainte Geneviève, qui a sauvé
Sainte Geneviève, bien sûr. Que j'évoque souvent dans mes prières.
Non, mais c'est formidable.
Pourquoi refuser les saints, Moi, j'aime les saints, même dans la la poésie, j'aime les saints, Saint John Perse et Saint Paul Roux. Vous voyez, pour moi, des grands maîtres. Voilà.
Oui, et ça, c'est un des bienfaits de la religion catholique, d'avoir su garder, d'avoir introduit une continuité avec les vérités qu'avait deviné le paganisme. Parce que le paganisme n'est pas le christianisme, mais le paganisme était un rapport religieux qui voyait quelque chose. Actuellement, l'Église a tendance à dire que toutes les religions sont vraies, pas plus que le catholicisme.
Ce n'est plus l'Église.
Là, on va trop loin. Mais ce qui est vrai, c'est que d'autres approches religieuses disent quelque chose de la transcendance. Ce n'est pas le bon accès, puisque l'accès est assuré par la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, dépositaire de la vraie foi.
Exactement.
Mais quelques hérésies...
Ce qui a tendance à oublier un peu le pape.
Ah oui, le pape. Moi, je me disais, si j'avais la chance d'être présenté au pape, je lui dirais, pardonnez-moi, sa sainteté, si je puis me permettre un conseil, vous devriez embrasser la religion catholique. Vous verriez, c'est très très
exactement.
Bien.
Exactement. Hein. Et de là, vous le traiteriez de soupape.
Alors qu'on a eu Jean-Paul II et Benoît XVI.
On a eu surtout Pie XII. Pie
XII
et avant lui Saint Pie X, par exemple.
Oui, oui.
Anti-moderniste, ouais. Incroyable. D'ailleurs, on parlait de poésie. Vous savez que dans Alcool, le début d'Alcool, Apollinaire parle de Saint Pie X. De Saint Pie X en disant, mais c'est lui le vrai moderniste. C'est fabuleux. Alors j'ai dit, mais c'est pas Barrès qui parle de Saint Pie X. C'est pas Léon Blois, c'est pas Machette. Non, c'est le grand maître de la modernité en poésie, dans les arts, etc. C'est Guillaume Apollinaire. C'est prodigieux. Le début d'Alcool.
Et vous voyez comment notre émission se termine. Elle est partie un peu dans tous les sens, mais c'était un peu le sens de cette émission.
Voilà.
Puisqu'il
s'agissait... C'est de ne pas en avoir.
Voilà, l'entretien avec Daniel Abrocorn, qui nous a dit assez de choses de lui et de ce qu'il pense, et que nous avons assez échangé, pour que les auditeurs, quand ils écouteront les prochaines émissions de Daniel Abrocorn, disent « Ah ben oui, je le connais un peu, ce gars-là.
» Ça va les éclairer.
Il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal.
Ah, peut-être qu'ils vont dire...
Ce serait ma conclusion.
Pique et peindre.
Merci, Daniel Abrocorn.
Merci à vous, en tout cas.
Merci à Claudia, qui est une technicienne, une petite nouvelle que je ne connaissais pas.
Et qui est remarquable.
Et voilà, qui est très bien aussi. Donc, on était très bien tous les trois, surtout vous, Daniel. Et je suis très heureux d'avoir fait cette émission avec vous. C'était Daniel Abrocorn, A-B-R-E-H-A-B-R-E-K-O-R-N.
Voilà.
Que vous pouvez écouter le jeudi de la semaine C de 10h à 11h.
Voilà. Merci beaucoup.
Venez d'entendre Paroles et Pensées, dirigée par Jean-René Lannemiral, émission préenregistrée le 27 novembre 2023 et diffusée pour la première fois lundi 16 février 2026 de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.